La parole parlée numéro 129. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Pasteur Brian Kozurek. 28 novembre 2009. Pour notre texte ce soir, j'aimerais prendre Éphésiens 5:25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. 26 afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. 27 afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 28 Esther ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. 29 Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. 30 Parce que nous sommes membres de son corps. 31 Esther pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 32 Ce mystère Esther grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Maintenant, dans la parole parlée Esther la semence originelle au paragraphe 204. Frère Branham dit, Christ veut dire loin, un homme qui a été loin. Et Dieu habitait en lui. Qu'Esther ce que c'était, le germe avec la chair, loin, la chair qui était loin de l'Esprit de Dieu, ce qui est produit la parole de Dieu manifestée. Et nous l'avons contemplé, le Fils unique engendré par le Père, plein de grâce. Voyez, de son sein voilà, voyez-vous, il était la parole de Dieu manifestée. Et alors, il est mort pour payer la dette de votre hybridation. Oh, là là, voilà, c'est ça. Qu'est-ce? Pour que vous puissiez mourir à vous-même, au point où vous n'êtes plus vous-même. Maintenant, je veux que vous observiez que frère Branham parle de la manière dont Christ a donné sa vie pour ses frères, tout comme Paul nous dit dans Éphésiens 5. La manière dont Christ a exprimé son amour en donnant sa vie pour l'Église. Par conséquent, étant donné que ce soir, c'est la nuit où nous prenons la communion. J'aimerais prendre un petit message de consécration, afin que nous puissions comprendre le genre d'amour que Christ avait pour son Église, son épouse. Pour que nous puissions comprendre le genre d'amour que nous devrions aussi avoir dans nos vies. Un jour, je lisais un article du rabbin Franc concernant le mariage, et il a dit certaines choses qui, à mon avis, était remarquable, et j'y ai découvert des pensées de frère Branham très édifiantes, et des écritures qui se combinent à merveille pour exprimer l'amour que Christ avait pour l'Église et l'amour qu'un homme doit avoir pour sa femme. Maintenant, nous savons tous que Dieu lui-même a établi l'institution du mariage, avec Adam et Ève, peu après la création de l'homme. Maintenant, quand nous étudions la Bible, c'est presque comme si Ève fut créée après coup. 1. Parce que quand nous lisons l'histoire de la création dans Genèse 1:26-28 nous voyons qu'Adam fut créé un être esprit, qui était à la fois mâle et femelle. Genèse 1:26 et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe, sur la terre. 27 Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. 28 Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez, et multipliez, et remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Darby, Maintenant, nous savons d'après Genèse 1:26-28 que l'homme fut créé un être esprit. Écoutez ce que frère Branham en a dit dans son sermon Le fidèle Abraham 12:03-61p, 55. Maintenant, ce premier homme, Adam, regardez-le. En esprit, il était à la fois féminin et masculin. Et ensuite, il fut fait chair. Il n'avait pas d'aide. Alors Dieu, une femme n'Esther pas dans la création originelle de Dieu. Elle Esther un sous-produit de l'homme. Donc pour faire qu'il soit un, pour montrer ce qu'il a fait, il a ouvert le côté d'Adam, et a pris une partie de la chair d'Adam afin qu'il n'ait mis soit pas séparé, qu'il soit un, et a pris une partie de l'esprit d'Adam, une partie de la chair d'Adam, a enlevé l'esprit féminin d'Adam et a fait une Ève. Et quand vous voyez une femme, la manière d'être de nos femmes modernes, les cheveux coupés comme les hommes, qui fument comme les hommes, jurent comme les hommes. Vous voyez une femme qui veut être virile, il y a là une perversion quelque part. Et quand vous voyez un homme efféminé avec l'air d'un canard assis sur le dos de sa tête, et ainsi de suite comme cela, et qui veut porter des vêtements de femme tout le temps, il y a là quelque chose de perverti quelque part. Dieu a fait l'homme pour qu'il soit homme et la femme pour qu'elle soit femme. La Bible a dit. Et encore dans son sermon la semence n'hérita pas avec la balle 29:04-65p, 24 il l'a dit, c'est-à-dire ce que l'Église fait aujourd'hui. Car Jésus Esther la parole. Et il Esther l'époux. Et l'épouse Esther une partie de l'époux. Par conséquent, la parole qui doit s'accomplir en ce jour, c'est Esther la même partie de la parole qui s'Esther accomplit en son jour, c'est Esther la même parole, la même expérience, la même vie. Car quand Dieu a séparé Adam, nous découvrons qu'Adam était un esprit pour commencer. Il a fait l'homme à son propre image, il les créa mâle et femelle. Et puis, Genèse 2 continue, il créa l'homme de la poussière de la terre. L'homme fut créé à l'image de Dieu, Dieu Esther esprit. Ainsi il était un homme esprit. Puis quand il devint l'homme de chair, la chair animale sur la terre, il montrait, dépeignait ici l'épouse. Il n'a jamais pris un autre être et fait un autre être, mais il prit une partie d'Adam, la création originelle. Prit de lui une côte de son côté, et fit sortir l'esprit féminin d'Adam, il laissa l'esprit masculin, et le plaça dans la partie féminine. Par conséquent, une partie de son esprit, une partie de son corps, la chair de sa chair, l'osée de ses osées, la parole de sa parole, la vie de sa vie, et s'Esther ainsi qu'Esther l'épouse pour Christ. C'est Esther pourquoi l'enlèvement de la semence royale doit venir en premier. Et le reste des morts Néhémie vinrent point à la vie pendant 1000 ans. Puis ils sont amenés au jugement du trône blanc. Voyez, il n'y a pas de jugement pour la semence royale, ou la semence prédestinée d'Abraham. Remarquez, au chapitre 2 Adam était tout seul. Pour toutes les autres créations, il y en avait deux par espèce, un mâle et une femelle, mais Adam était seul. Observez le commentaire de Dieu à ce sujet dans Genèse 2:18 et l'Éternel Dieu dit, il n'espère pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Remarquez dans Genèse 1:26-28. Dieu a d'abord fait l'homme un être esprit, et dans cet état, il était à la fois mâle et femelle, mais quand Dieu l'a placé dans la chair, pour labourer le sol et exprimer la vie qui était dans son esprit, pourquoi le, Dieu qui connaît toutes choses a-t-il attendu de voir Adam tout seul avant de dire qu'il n'était pas bon pour lui d'être seul? Or l'ignorant dirait que Esther comme si Dieu a commis une erreur et a remédié à son erreur en séparant Ève d'Adam pour en faire deux êtres. Mais ce n'était pas une erreur. Vous voyez, Dieu créa toute la création, Il créa chaque espèce. Il fit un mâle et une femelle, pour procréer et remplir la terre. Mais quand il créa l'homme comme un être esprit, il fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Et si Adam devait procréer sous cette forme, il l'aurait fait de la même manière que Dieu, par la parole parlée. Avec Adam, il n'a pas fait deux êtres, un mâle et l'autre une femelle. Il a fait Adam un être qui était à la fois mâle et femelle. Alors, pourquoi Dieu, après avoir mis la peau sur cet être unique, qui était à la fois mâle et femelle, pourquoi Dieu a-t-il dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul? C'est la question que j'aimerais aborder ce soir. Pourquoi fallait-il que Dieu fasse d'Ève un être séparé? N'aurait-il pas été plus commode pour Adam? Et n'aurait-il pas été plus indépendant en étant capable d'avoir des enfants et de les élever sans l'aide d'une autre personne? De Nester se passe que le mouvement de libération des femmes veut? N'encourage-t-elle pas d'avoir des enfants sans avoir à passer par le mariage pour en avoir? Et dans certains cas, sans que l'homme soit impliqué? Et pourquoi cela? À cause de leur nature pécheresse égocentrique. Remarquez, dans Genèse 2:18, Dieu a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Par conséquent, il y a quelque chose qui n'est pas bon au sujet d'être seul. Tout le but de notre relation avec notre Père Céleste et notre compréhension de la relation qu'il avait avec son Fils premier-né Jésus, c'est que Dieu, notre Père, veut que nous parvenions à la même maturité dans notre relation avec lui et avec toute sa famille, comme l'a fait son Fils unique. Et c'est extrêmement difficile de le faire seul. L'un des moyens le plus significatif de bâtir le caractère, c'est en vivant pour les autres. En fait, frère Branham a dit, l'évidence que vous avez la vie éternelle c'est que vous vivez pour les autres, car la vie éternelle c'est vivre pour les autres. Dans son sermon c'est le jour-là au Calvaire 25 septembre 1960 frère Branham dit 86. Vous n'aimez vivez pas pour vous-même. Vous vivez pour les autres, pour pouvoir racheter cet homme-là. Vous devenez des fils. Et le problème, c'est que l'Église l'a oublié, qu'ils étaient des fils. Vous êtes des fils. Vous prenez la place de Christ. Vous êtes des fils. Alors n'aimez vivez pas pour vous-même, vivez pour les autres. 87 à bien, frère Branham, je peux vivre pour ce frère-ci, parce que c'est un homme vraiment sympathique. Ce n'est pas ça. 88 vivez pour l'homme qui vous hait. Vivez pour la personne qui vous tuerait si elle le pouvait. C'est ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont tué. Et il est mort, pour pouvoir les sauver. C'est la vie éternelle. Nous. Quand c'est dans votre cœur, alors vous êtes tourné vers le ciel. Mais vous sacrifiez les choses qui vous appartiennent, vous les abandonnez, comme le mouton donne de sa laine. Vous continuez à regarder en direction du calvaire. Vous voyez, comme fils créé à l'image de Dieu, et ayant reçu sa vie Dieu, Dieu n'a émis nous a pas donné sa propre vie pour que nous puissions être égoïstes avec cela. Il nous l'a donné pour que nous la donnions aux autres, pour que nous partagions notre vie et notre être avec les autres, et c'est ce qu'il en est de la vie éternelle. Et, dans chaque famille, les fils et les filles doivent apprendre à vivre les uns pour les autres et à faire des choses les uns pour les autres, sinon cette maison est pleine de discorde. Et dans ses murs, il y régnera un chaos total. Paul a dit dans Éphésiens 5:25 Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Dieu n'a pas fait d'elle votre aide pour qu'elle puisse faire tout le travail pour vous et que vous puissiez vous asseoir confortablement et lui ordonner de venir vous laver les pieds. Un homme qui agirait de cette façon est un cochon égoïste. Il n'est pas un homme. Frère Branham nous l'enseigne dans son sermon, ces jours-là au calvaire 25 septembre 1960 où il dit 84. Il n'était qu'un homme, l'homme parfait. Il a donné sa vie. Il vous a donné un exemple. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? 85 bon, la première chose que je veux dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. C'est parfaitement ça la vie éternelle. Quand vous dites que vous allez à l'église, et que vous faites des bonnes actions, c'est bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. C'est ce qu'elle a prouvé, quand elle est venue dans l'agneau de Dieu. Il vivait, et il avait la vie éternelle, parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour les autres. Et vous, recevez la vie éternelle, en recevant ce jour-là, alors vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Et l'Église qui n'a aucune envie d'aider les autres en dehors de leur propre groupe, je doute fort de leur nouvelle naissance. Je doute qu'ils aient la vie éternelle. Car vous voyez, il est quasiment impossible de vous isoler et de vivre en même temps pour les autres. Comment allez-vous mûrir et être conforme à l'image du Fils premier-né si vous vous isolez des autres? Si Adam était resté tout seul, il aurait manqué de ce qui est nécessaire pour devenir un fils de Dieu mature. Quand nous venons au monde en tant qu'un être immature, un bébé, nous étions ce qu'on appellerait des parfaits profiteurs. 3. Tout celui qui naît dans ce monde, et entre comme un bébé immature qui n'est mis, se préoccupe que de lui-même. Tout celui qui a eu un bébé ou a été en contact permanent avec un, c'est que les bébés sont les plus grands profiteurs. Il n'est mis se soucie jamais de qui que ce soit d'autre. Tout ce qui les intéresse dans la vie c'est d'être nourri, réchauffé, séché, câliné, et ils ne s'intéressent absolument pas à la manière dont leurs besoins vous affectent. Ça leur est complètement égal si vous avez une journée pénible ou si vous n'avez pas dormi depuis deux nuits. Leur devise c'est « nourris-moi, habille-moi, change ma couche, fais-moi faire mon rôle. Aime-moi. Soigne-moi. 4. Tous. Nous sommes externés ainsi. C'est ainsi que nous sommes entrés dans ce monde, mais ce n'est pas ainsi que nous sommes censés le quitter, des petits bébés narcissiques, immatures et égocentriques. Mais le but de la vie est de mourir à soi et d'atteindre la maturité de la foi par la connaissance du Fils de Dieu. Et si vous faites cela, vous ne resterez pas celui qui profite, mais vous deviendrez celui qui donne. Il se peut que vous soyez entré égocentrique dans ce monde, mais vous n'allez pas rester ainsi, parce que vous apprendrez à mourir à vous-même, pour que Christ, la vie du Fils adopté de Dieu, le premier-né, puisse vivre en vous. Or, pour qu'une famille vive harmonieusement, elle doit vivre les uns pour les autres. Et ça commence par le mariage. Oui, c'est là où la plupart des gens apprennent à s'écarter d'eux-mêmes et apprennent à vivre pour les autres. Et tout mariage, où ni l'homme ni la femme n'est disposé à mourir à soi-même, est voué à l'échec. Le mariage est le cadre où nous devons apprendre à passer de celui qui profite à celui qui donne. Le mariage exige que nous subissions ce changement, sinon il ne tiendra pas longtemps. Dans le mariage, vous ne pouvez plus penser essentiellement à vous-même. Paul a dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, et il a dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Le mariage n'est pas l'union d'un seul, ce n'est pas un sacre, une cérémonie religieuse pour le couronnement d'un souverain. Le mariage est l'union de deux individus, qui se complètent et qui bâtissent une union bénie basée sur un amour commun, qui est si fort entre eux qu'une et demie peuvent pas vivre séparés. Durant des années, j'ai conseillé plusieurs jeunes hommes qui cherchaient à se marier, et je leur ai dit, dans le mariage, il n'est pas question de soi-même, il est question d'une union de deux êtres. Par conséquent, votre moi doit devenir nous, et votre je doit devenir nous. Voilà tout le but du mariage, et voilà pourquoi Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela ne veut pas dire qu'il est impossible à une personne d'atteindre la maturité en dehors du mariage. Considérez simplement Jésus et Paul. Et Paul a dit que je souhaite que vous soyez comme moi. Et il parlait d'être célibataire, de façon à ce que vous puissiez consacrer toute votre vie à servir la famille de Dieu. Mais le processus de la filialité, la condition d'être fils ou fille, reçoit un coup de pouce lorsque deux personnes par amour s'unissent et apprennent à être ceux qui donnent au lieu d'être ceux qui profitent. Il n'existe guère une meilleure institution que celle du mariage, par laquelle deux personnes sont placées dans la situation idéale, où elles ont une personne à qui donner. Aussi, je veux que vous compreniez que l'amour que nous éprouvons pour les autres n'augmente pas quand nous recevons des autres. La vraie façon d'accroître l'amour, c'est de donner inconditionnellement. Le mot hébreu Ahava, qui veut dire « amour », se rapporte au mot « av », qui veut dire « donner ». 5 est le mot grec pour exprimer l'amour de Dieu, agapester, très souvent traduit par « charité », car la meilleure manière d'exprimer l'amour, c'est en donnant. Jean 3, 16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Laissez-moi vous poser cette question. Pourquoi pensez-vous que les gens aiment autant leurs chiens? Je vais vous dire la raison. Les chiens n'aiment répondent pas insolemment. Ils n'aiment répondent pas avec impertinence et ils n'aiment causent pas d'anxiété ou de chagrin. Ils n'ont pas besoin de vêtements. Ils n'ont pas besoin d'appareils dentaires. Vous n'avez pas à vous inquiéter de leur morale ou de combien ils cèdent à l'influence du groupe. Ainsi, l'amour qu'ils donnent à leur chien est un amour inconditionnel. Ils n'imposent pas de conditions pour ce qu'ils font pour eux. Ils les nourrissent parce qu'ils les aiment. Ils leur achètent des gâteries parce qu'ils veulent leur exprimer l'amour qu'ils portent. Voilà ce pourquoi les gens aiment bel et bien leur chien. Et beaucoup de propriétaires de chiens traitent bien mieux leurs chiens que leurs propres enfants. Je connais des personnes, des braves personnes pieuses qui donnent plus d'affection à leurs chiens qu'à leurs propres enfants. Et contrairement à leurs enfants, leurs chiens leur rendent leur amour probablement plus que leurs enfants. Le chien est toujours si content de les voir. Mais ce n'est pas de là où vient leur amour pour leurs chiens. Il vient du fait qu'ils donnent inconditionnellement. Il existe d'autres raisons pour lesquelles Ève a été façonnée à partir d'Adam. L'un des traits rudimentaires humains est qu'il nous est difficile d'envisager les situations de nos vies d'une manière objective. Nos intérêts altèrent notre vue sur une question, même si nous essayons de l'ignorer. Il est donc important de consulter une deuxième partie impartiale pour nous aider à voir correctement nos vies. Une épouse joue un rôle important, un rôle qui n'est mis peut-être rempli que par une autre partie. Une épouse procure ce deuxième avis. 6. En tant qu'individu, à moins que nous soyons déjà morts à nous-mêmes, nous avons tous des problèmes avec nos égos, et nous avons tendance à nous irriter quand les gens nous disent quoi faire. C'est pourquoi Paul a dit Colossiens 3:19 « Marie, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. » Comme les femmes ont bien des fois, sur les choses, un avis différent de leur mari, les maris ont tendance à s'irriter contre leurs propres femmes, parce qu'elles en parlaient franchement sur des choses pour lesquelles nous n'aimons, demandons peut-être pas leur avis. En fait, la plupart des hommes Néhémie demandent pas l'avis de leurs femmes. Parce qu'ils Néhémie veulent que leur propre avis, dans lequel ils se complaisent. Mais ce n'est-ce pas la bonne chose à faire? Personne Néhémie peut se passer des autres. Donc nous avons besoin de consulter des sources tierces si nous devons faire une évaluation claire et juste des nombreuses situations auxquelles nous avons à faire face. Peu m'importe combien un homme peut connaître la parole. Si Néhémie connaît qu'une partie de l'histoire, il va tirer ses conclusions uniquement sur des demi-vérités. Donc, un deuxième avis est toujours utile si nous cherchons à ce que ce soit ainsi. Mais si on se contente de soi-même, alors d'autres avis différents de la nôtre seront plus une irritation qu'une aide, comme quelques-uns le penseraient. Mais une personne mûre cherchera l'avis de plus d'une source, et puis il pèsera cet avis par la parole de Dieu et la prière. Nous sommes si souvent convaincus que nos avis sont justes, que nous n'y sommes pas ouverts au tiers-avis. Et ce n'est-ce pas saint. Et la beauté du mariage consiste en ce qu'il nous offre la parfaite solution à nos égos tournés vers nous-mêmes, parce que Dieu met ensemble des contraires ou des opposés pour nous amener au milieu de la route, sur beaucoup d'avis que nous avons dans la vie. Manquer d'ouverture à un tiers-avis nous conduit à une situation là où notre connaissance limitée et notre subjectivité peuvent nous faire commettre de très graves erreurs de jugement. Mais la personne qui est égocentrique, généralement, rejettera les bons conseils qui viendront des autres, parce que ce n'était pas son avis à lui. Ainsi, le mariage, c'est la façon de Dieu de nous rendre un grand service. Rabbin Isochef Froid a montré dans son article que, Dieu nous fournit une personne bien informée qui peut nous donner un avis affectueux et impartial. Une conjointe a l'avantage d'être une partie de vous. Comme disaient nos sages, Ishto que du faux, l'épouse d'une personne Esther comme lui-même, mais il ou elle Esther aussi assez objectif pour vous dire, je suis désolé, mais tu n'envisages pas correctement cette question. Le Netziv trouve une allusion à cette idée dans ses mots, et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Un Ezer Kenegdo. Bien que le terme kenegdo puisse être traduit par qui lui corresponde, la traduction plus commune est qui lui est opposé ou qui s'oppose à lui. Ce qui conduit le Talmud à dire que les er kenegdo sera un oxymoron. Une épouse Esther, soit une aide pour son mari, soit son opposé. Comment peut-elle être les deux à la fois? Donc, de temps à autre, l'aide doit être occupée à s'opposer à lui. 7. Naftali Tzvi Juda Berlin, aussi connu sous le nom de Rebbi Schleb Berlin, un célèbre écrivain russe au juif auteur du livre Le Juif du XVIIe siècle, explique qu'une épouse est effectivement une aide, mais l'aide peut parfois venir sous la forme de l'opposition. Il peut nous être difficile d'entendre nos épouses nous dire, chérie, tu fais une erreur. Mais le second choix est de continuer à vivre, tant bien que mal acquis, en répétant nos mêmes gaffes ou en commettant même de plus graves. De temps à autre, l'aide doit être occupée à s'opposer à lui. 8. Pour conclure, laissez-moi vous lire certaines choses que le rabbin Isochef Froid devait dire à ce sujet. Comme toute autre chose dans la vie, on peut exagérément s'opposer à lui. Avez-vous déjà remarqué qu'une salière a plusieurs trous, tandis qu'une poivrière en a seulement quelques-uns? La nourriture est rehaussée par le piquant du poivre, mais c'est seulement quand le poivre est saupoudré en petite quantité. La critique, comme le poivre, doit être utilisée en petite quantité. Si vous en mettez trop, cela aura un effet négatif. Comme nous le savons tous, dès le premier jour de ce mariage, Dieu a dit à Adam qu'il pouvait manger le fruit de n'importe quel arbre du jardin d'Éden à l'exception de l'arbre de la connaissance. Adam transmit l'ordre à Ève, mais peu de temps après, le serpent l'incita à manger de l'arbre de la connaissance, et elle, à son tour, donna à Adam de manger de l'arbre. Ce péché affecta le monde de la plus mauvaise manière, car l'une des malédictions qui était tombée sur l'humanité à cause de ce péché, était la mort. Directement après le verset dans lequel Dieu dit à Adam que certainement il mourrait, comme toute sa progéniture, la Bible déclare, l'homme appela sa femme du nom d'Ève, parce qu'elle était devenue la mère de tous les vivants. Avez-vous déjà remarqué ce drôle de juxtaposition? Si nous devions donner un nom à une personne qui venait à peine d'amener la mort sur l'humanité, nous aurions été tentés de l'appeler Misa, la mort. Ce nom peut n'aimer pas être aussi bon que Chava, Ève, mais il aurait été approprié au vu de la scène qui venait juste de se dérouler. Au moment où tout était morne, Adam a pris note de ce qu'Esther le chosid, la bonté. Le Talmud, Sota 14a, déclare que la Torah commence par la bonté et finit par la bonté. Les derniers versets de la Torah parlent de Dieu enterrant Moïse. Le fait d'enterrer une personne Esther appelée un Chezéchelim, de la vraie bonté. Où Esther la bonté au début de la Torah? Pour avoir mangé de l'arbre de la connaissance, Adam et Ève ont soudainement pris conscience de leur nudité, et sont devenus pudiques. Bien que cette pudeur fût une conséquence de leur péché, Dieu néanmoins manifesta de la bonté en leur confectionnant des vêtements. Ceci Esther, d'après le Talmud, le première chose est donc il Esther fait mention dans la Torah. Laissée à nous-mêmes, nous pouvons supposer qu'une bonté incommensurable avait précédé celle-ci. Dieu n'avait pas du tout besoin de nous, des êtres mortels, dans le monde. Il nous a créés pour nous permettre de récolter la récompense de notre mitzvot. Pourquoi la Bible Néhémie considère-t-elle pas la création de l'espèce humaine comme la première manifestation de bonté de l'histoire? En effet, la création d'Adam était effectivement un chosid, mais c'en était pas un de particulièrement difficile. Adam était l'être le plus parfait qui n'a été créé, et il devait remplir une fonction importante dans le monde. Mais quand Adam et Ève ont péché, amenant la mort et la destruction au nouveau monde parfait, ils ont eu des remords. Quand Dieu leur a montré qu'il était disposé à regarder au-delà de leurs erreurs, de les aimer et de prendre soin d'eux en dépit de leurs méfaits, c'était une très grande bonté. Pour que nos mariages soient une réussite, nous devons tous apprendre à regarder au-delà des erreurs de nos conjoints, E.S. Adam a compris cela. Et il a pratiqué cette forme de chosid. Ève avait commis la plus grave erreur imaginable. Jamais personne Néhémie commettrait encore une telle grave erreur. Adam l'a regardé et dit, néanmoins, tu es Ève. Tu es toujours la mère de toute la race humaine. Pour que nos mariages soient une réussite, nous devons tous apprendre à regarder au-delà des erreurs de nos conjoints, E.S. Nous devons apprendre à Néhémie pas limiter notre attention aux conditions présentes, mais à regarder la totalité de nos relations et à considérer tout le bien que nos conjoints, E.S. nous ont fait, E.S. Néhémie vous attardez pas sur les erreurs. Pardonnez et oubliez. Souvenez-vous, jamais une femme Néhémie commettra une plus grave erreur que celle d'Ève. Même le fait d'oublier de poster le chèque de l'hypothèque n'est-il pas aussi mauvais que de manger de l'arbre de la connaissance. C'est assez mauvais. Mais ce n'est pas aussi mauvais. Regardez l'ensemble de vos relations, et souvenez-vous que votre conjoint, Esther, celui ou celle qui vous a donné tant de bonheur et tant de bénédictions. De la patience à l'avenir, le mot hébreu pour mariage Esther, Nizuil qui trouve ses racines dans le mot naso, porter. Dans le mariage, quelqu'un doit, sup, porter, et quelquefois, en effet, cela peut être un schlep, les faiblesses et les traits de caractère négatifs de l'époux ou de l'épouse, mais aussi les idiosyncrasies qui nous rendent si chers aux yeux de l'un l'autre. Selon le petit Larousse, Le mot idiosyncrasie est un nom féminin composé, du grec idiot, particulier et synkrasis. Mélange, didacte. Manière d'être particulière à chaque individu, qui l'amène à avoir des réactions, des comportements qui lui sont propres, trad. Dans notre monde de communication instantanée, nous n'y sommes plus habitués à attendre. Cependant, pour réussir dans le mariage, vous devez avoir de la patience pour permettre à votre conjoint, de changer, de grandir, et de vaincre les obstacles avec lesquels il ou elle est terné, Les gens changent effectivement, mais cela nécessite des années. Le mariage n'est pas instantané. Se changer n'est pas instantané. Vous devez apprendre à avoir de la patience avec les faiblesses de l'autre et aller, porter jusqu'à ce qu'elle puisse changer. Et c'est ça le mariage, apprendre à avoir de la patience pour permettre à l'autre de devenir meilleur, et de autour de leurs idiosyncrasies jusqu'à ce que cela se produise. Comme tout ce qui en vaut la peine, un mariage heureux et réussi exige du travail. Mais il n'existe pas dans le monde un investissement qui n'en vaut autant la peine. Rien n'est aussi gratifiant qu'un bon mariage. Que vous soyez un célibataire, puisse Dieu vous envoyer rapidement votre âme sœur, un nouveau marié, ou un vétéran dans le mariage. Souvenez-vous que le mariage c'est donné, c'est aimé assez pour pouvoir critiquer respectueusement. C'est être disposé à oublier et à renoncer, c'est être disposé à se métamorphoser d'une chenille en un papillon. 9. Courbons nos têtes dans la prière. Vous trouverez les articles du rabbin Isochet Franc sur le site internet http://www.hj.com/search/author=6836447 1 2 3 5 6 7 9 Rabbin Chaim de Volozin 4 Naftali Tzvi Juda Berlin, également connu sous le nom de Rabbi Schleb Berlin 8 C Grâce Fellowship Tabernacle juin 2010 Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site internet à briancocourec@yahoo.fr.